Arthur Rimbaud, le poète de l'enfer, des couleurs et de la fuite, l'homme pressé qui rêve de départ et qui est tellement enfermé dans quelques images tenaces que l'on a de lui. Faire la peau à ces images en lisant Rimbaud, en l'écoutant et en réfléchissant avec lui, c'est le programme des Chemins de la philosophie cette semaine. Aujourd'hui, nous allons vivre en enfer, mais le temps d'une saison. La parole est à Serge Gainsbourg.
Rimbaud, on en reviendra toujours à Rimbaud, parce que je voudrais l'égaler, j'y arrive pas. Peut-être j'y arrive sans en prendre conscience, mais je veux l'approcher, je veux le retrouver en Abyssinie, je veux retrouver Rimbaud. La poésie, dans son état pur, n'a pas besoin d'un apport musical. C'est là où ça me fait chier. Parce que j'aime la musique.
Ce n'était ni le diable, ni le bon Dieu. C'était Arthur Rimbaud, c'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste, un garçon pas comme tout le monde, non certes, de qui la vie est tout en avant dans la lumière et dans la force, belle de logique et d'unité comme son œuvre.
Satan, your kingdom must come down. Satan, your kingdom must come down. Of Jesus say, Satan, your kingdom must come down. I'm gonna pray till they tear your kingdom down. Pray till they tear your kingdom down. I heard the voice of Jesus say, Satan,
la lutte de Rimbaud n'aura fait que rendre la vie, délivrée de ses entraves morales, à ses limitations absolues. Elle l'aura affranchie de ses misères, mais seulement pour l'ouvrir aux malheurs nouveaux du tragique, ces malheurs dont le chant est clair et que Nietzsche a même décrit comme extase joyeuse. Bonjour Yann Frémy.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie et bienvenue au royaume de Rimbaud, décrit par Gainsbourg, chanté par Robert Plant et dans lequel vous allez nous guider aujourd'hui, vous qui êtes chercheur associé au Sériel à l'Université de Strasbourg, qui avez publié « Te voilà, c'est la force », essai sur une saison en enfer de Rimbaud aux éditions Classiques Garnier. Alors la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous allons en enfer, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va durer qu'une saison, donc c'est pas pour toute la vie, n'est-ce pas ?
C'est une saison d'enfer, donc effectivement, ça s'inscrit dans le temps humain. Hein, c'est une des questions de Rimbaud. Hein, il se présente immédiatement, hein, dès le début d'une saison d'enfer, comme un damné. Mais quelle est cette damnation ? Est-ce que c'est vraiment une damnation religieuse, avec une théologie qui est dite sérieuse, hein, dans une saison d'enfer, ou est-ce que c'est une damnation dès ici-bas ?
Je citais Yves Bonnefoy qui comparait la façon qu'avait Rimbaud de décrire les malheurs à celle de Nietzsche, qui lui décrit le malheur comme extase joyeuse. Votre parti pris, Yann Frémy, c'est de justifier l'approche de Rimbaud en philosophe, n'est-ce pas ?
Oui. C'est-à-dire que, sans faire de Rimbaud un philosophe, son questionnement est proprement philosophique. Hein, et il va même, si l'on peut dire, à un moment approcher le concept, hein, c'est-à-dire réfléchir puissamment, hein, sur le lien qui existe entre la poésie et l'ontologie, hein, notamment dans les Illuminations. Alors qu'une saison d'enfer vit plutôt ce questionnement philosophique sur le mode de la crise, hein, plus que sur le mode de l'affirmation.
Et en faire un philosophe, c'est quand même respecter la façon poétique d'écrire. C'est-à-dire que souvent, le risque est de réduire une production artistique à des concepts qui sont trop abstraits.
Oui, oui, oui. Le texte présente une argumentation philosophique. On le voit dès le départ, hein, dans Une saison en enfer, il y a ce prologue. Et ce prologue s'ouvre sur une phrase très, très connue, hein. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Voilà. Donc, dès le départ, on a cette mise en scène, on peut dire, d'un bonheur parfait, hein, d'un bonheur essentiel. Voilà. Mais on voit que le sujet, hein, si on peut l'appeler comme ça, ma vie était un festin, que c'est une relation d'identité. Il n'est pas. Voilà, il n'existe pas encore. Il est encore dans l'essence. Et c'est seulement lors de l'apparition du temps, hein, un soir, hein, que ce sujet va arriver à l'existence, va commencer à exister.
Alors, on va écouter ensemble ce prologue, Une saison en enfer. Dites-nous un mot d'ailleurs, d'abord sur ce recueil, Une saison en enfer.
Ben, Une saison en enfer, c'est une œuvre qui vient après Les lettres du voyant. Hein. Les lettres du voyant étaient une œuvre de confiance. Hein. Il Rimbaud espérait une sorte de tabula rasa pour accéder à la plénitude du grand songe, à l'inconnu. Et deux ans après, il se rend compte qu'il y a un tragique qui ne peut pas être évacué. Et ce tragique est notamment constitué par les représentations familiales, culturelles, mais aussi la sale éducation d'enfance, hein, c'est-à-dire son éducation chrétienne.
C'est son premier recueil de poésie publié à ce moment-là.
Une saison en enfer, c'est le seul livre qu'il ait publié, hein, le seul livre vraiment qu'il a amené jusqu'à l'impression, véritablement. Voilà, il disait significativement « Mon sort dépend de ce livre ». Ce qui, effectivement, ouvre une perspective existentielle, mais il ne faut pas non plus hypostasier, hein, ce qui devait lui permettre une carrière littéraire. Voilà, il l'espérait encore, du moins, en 1873. Deux ans plus tard, ça ne sera plus le cas, étant donné qu'il s'en ira pour une existence anonyme et un peu suicidaire, tout de même.
Voici donc le prologue d'Une saison en enfer, le premier texte que l'on découvre quand on ouvre ce recueil, lu pour vous par Jacques Gamblin.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui, ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, etc. » surécrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. « Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. » Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée, et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés.
Arthur Rimbaud a 19 ans quand il écrit ce poème, et déjà il semble nostalgique d'une période de sa vie qui n'est plus, ce moment où sa vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs et où tous les vins coulaient, Yann Frémy.
Oui, mais ce festin a-t-il existé? Voilà, il le dit bien, il y a un tour hypothétique, si je me souviens bien. C'est là où c'est véritablement intéressant, parce qu'on voit que le texte commence par la mise en scène d'une naissance. D'une naissance où ma vie était un festin, c'est-à-dire je n'existe pas encore. Et le temps intervient, hein, dans cette essence, un soir, et il assoit la beauté sur ses genoux. Alors quel type de beauté, hein, voilà, quelle est cette beauté qu'il assoit sur ses genoux? Il n'est pas à genoux pour honorer la beauté vient sur ses genoux, voilà, et il la goûte cette beauté, hein, il la trouve amère. Donc on a la naissance probablement d'un corps ici, hein, c'est l'éveil, et l'éveil d'un corps c'est proprement une naissance. Et il va s'enfuir et se révolter contre ce qui, sans doute, contre Dieu, Hein, voilà, pour contre Dieu, parce que cette image est une image bien sûr d'un festin biblique. Et il va confier, il va chercher de l'être, si on peut dire, parmi ceux qui ne peuvent pas proposer de l'être, c'est-à-dire les sorcières, les misères, la haine.
Chercher de l'être, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, chercher de l'être, c'est-à-dire chercher d'une substance pour pouvoir dire que moi, j'existe véritablement.
Hein. Et de prouver son existence.
De prouver son existence, de faire son existence. Ou bien de réaliser sa propre essence, hein, voilà, à partir de son existence. Et donc, il va demander à ces figures anomiques, à cette paratopie, à ces lieux reculés, à ces singularités sauvages, à ces êtres maudits, finalement, de donner un sens à son existence, ce qui est un petit peu paradoxal. Et évidemment, tout ce qu'ils peuvent lui proposer, d'une certaine manière, c'est du néant, c'est de la négativité. Or, à un moment, effectivement, Rimbaud est un petit peu aussi, si on veut bien voir que le jeu est Rimbaud, hein, mais Verlaine disait qu'Une saison d'enfer était une espèce de prodigieuse autobiographie psychologique, hein, donc on peut dire Rimbaud. À un moment, Rimbaud va avoir la nostalgie de ce festin ancien. Et il va le dire ici, après, il va le dire, la charité est cette clé, cette aspiration prouve que j'ai rêvé.
La charité et cette clé.
La charité, cette clé. La clé du festin ancien. Donc la charité, clairement, c'est une vertu théologale. Donc il fait une interprétation de ce festin ancien comme celui d'un festin biblique qui implique une sorte de métaphysique religieuse. Or, la phrase qui suit, « Cette inspiration prouve que j'ai rêvé », est colossale en termes d'enjeu parce que elle ramène à « si je me souviens bien ». Donc, si je me souviens bien, il était déjà pas très sûr de son souvenir. Mmh. Et son souvenir, finalement, ça n'est qu'un rêve. Et si ça n'est qu'un rêve, ça une application que l'essence biblique n'existe pas. Et donc, il a été jeté tout de suite dans l'existence, qu'il pensait se révolter contre Dieu, ce qui donnait de la noblesse à ses idées, mais que finalement, il n'aura fait que le mal. Le pitre, il sera séché à l'air du crime. Ce qui reste, c'est finalement ce qu'il a fait de négatif. Voilà. Pensant se résister, se révolter contre Dieu, il s'aperçoit finalement peut-être que Dieu n'existe pas. Et dans son athéisme, dont je suis persuadé que Rimbaud est athée, il se rend compte qu'il a voué son existence à une révolte contre rien. Sous un ciel vide.
Quand vous dites que ce poème est celui d'une naissance, c'est aussi le premier pas vers l'enfer. Ça veut dire que naître au monde, c'est d'emblée découvrir l'enfer. L'enfer, c'est ici-bas.
Voilà, c'est ici-bas. Et en fait, c'est à deux niveaux. Parce que le diable continue à parler après. Même si Dieu n'existe plus, le diable continue à parler. Alors là, c'est-à-dire que la théologie, on ne l'évacue pas si facilement que ça pour un poète comme Rimbaud qui a vécu dans les campagnes, qui a fait sa communion, qui était obligé d'aller tous les dimanches à l'église, qui est pénétré de liturgie, voilà, et d'éducation chrétienne, notamment par sa mère, mais aussi parce qu'il a fréquenté le séminaire. Donc on n'évacue pas si facilement les représentations. Si on tient compte effectivement, dans ce cas-là, l'enfer, c'est l'existence. Et il s'est damné d'une certaine manière dès ici-bas. Et Une saison enfer va toujours jouer entre ces deux pôles, la damnation religieuse et la damnation, on pourrait dire, personnelle, individuelle, matérialiste.
Avec cet aspect que vous avez rapidement commenté, qui est l'irruption du physique et du matériel, parce que sans cela, ce que vous dites pourrait être très abstrait, une révolte d'un homme contre Dieu, finalement, on le trouve dans d'autres formes littéraires que celle de la poésie. Dans ce texte en particulier, le moment où Rimbaud dit qu'il a assis la beauté sur ses genoux, qu'il l'a trouvée amère et qu'il l'a injuriée, on sent qu'ici, il y a une forme de réflexion qui passe par le corps et que cet enfer peut-être aussi est le lieu d'une forme de sensibilité, de sensation, en tout cas à une dimension physique.
Oui. Oui, c'est clair. C'est une méthode. On pourrait appeler ça l'œuvre noire. Ça rappelle telle citation du 18e siècle. L'homme préfère souffrir que de ne pas sentir. Voilà. Mmh. Pour arriver à l'existence, il va falloir prouver, hein, et faire de son corps un lieu d'expérimentation. Faire passer par ce corps des intensités. Mais en même temps, ce corps est un corps, n'est pas un corps, comme disait Artaud, un corps sans organes, c'est-à-dire un corps sans organisation. C'est un organisme. Il y a un passage assez extraordinaire dans la quatrième section de Mauvais Sang, où il explique, je lis ce passage, « Reprenons les chemins d'ici chargés de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mes côtés dès l'âge de raison, qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne. » Alors, on s'est demandé ce qu'était ce vice, mais il est clair que ici on a une scène qui est assez intéressante parce que c'est clairement un éveil à la sexualité, un éveil au corps, et en même temps ce qui monte au ciel me bat, me renverse, me traîne, c'est une allusion à l'herbe de Jessé, l'herbe de Jessé qui donne la généalogie du Christ. Donc en même temps il y a une coprésence de la découverte du corps et immédiatement de la religion, comme si les deux étaient totalement imbriqués. Et une saison d'enfer est justement, l'objectif d'une saison d'enfer est de faire une déconstruction pour réussir à extirper le corps, l'être, l'énergie pure de toutes ces représentations qui parasitent et qui font que le sujet reste en enfer.
Mais donc l'enfer, c'est ici-bas ou ce sont les représentations qui pourrissent ici-bas, parce que c'est pas la même chose.
Oui, justement, la difficulté pour un beau est de devenir comme de fonder un avenir qui soit matérialiste. Il est continuellement pétri d'utopie, d'idéalisme, ce qui est une bonne chose en soi, c'est son héritage romantique. Mais il sent bien que cet idéalisme est immédiatement confisqué par la métaphysique occidentale. Elle est capturée par le Christ. Voilà, on le verra avec l'esprit. Hein. L'esprit va tout de suite vers Dieu. Voilà.
Bah, allons-y, suivons cet esprit vers Dieu. C'est le deuxième texte que je vous propose d'entendre aujourd'hui. Le poème s'appelle « L'impossible ». On est toujours dans une saison en enfer. Et cette fois-ci, le poème un peu plus long nomme directement non seulement le problème avec le christianisme, avec la métaphysique, et oppose de manière frontale l'Occident dans lequel nous vivons et l'Orient qui fait rêver Rimbaud, l'Orient qui est promesse d'un ailleurs meilleur. Or, évidemment, il n'en saura rien, sinon il ne serait pas poète. Écoutez.
Ah, cette vie de mon enfance, la grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressée que le meilleur des mendiants, fière de n'avoir ni pays, ni amis. Quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains, puisque je m'évade. Je m'évade. Je m'explique. Hier encore, je soupirais. Ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas? Moi, j'ai tant de temps déjà dans leur troupe. Je les connais tous. Nous nous reconnaissons toujours. Nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue, mais nous sommes polis. Nos relations avec le monde sont très convenables. Est-ce étonnant? Le monde, les marchands, les naïfs, nous ne sommes pas déshonorés. Mais les élus, comment nous recevraient-ils? Or, il y a des gens hargneux et joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus, ce ne sont pas des bénisseurs. M'étant retrouvé dessous de raison, ça passe vite, je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident, les marais occidentaux. Non que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré. Bon, voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes dessous de raison sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Je retournais à l'Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît que c'est un rêve de paresse grossière. N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume, nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue, et l'ivrognerie, et le tabac, et l'ignorance, et les dévouements, tout cela est-il assez loin de la pensée de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive? Pourquoi un monde moderne, si de pareils poisons s'inventent? Les gens d'église diront, c'est compris, mais vous voulez parler de l'Éden. Rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux. C'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais. Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette pureté des races antiques? Les philosophes, le monde n'a pas d'âge. L'humanité se déplace, simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient, quelque ancien qu'il vous le faille, et d'y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu. Philosophe, vous êtes de votre Occident. Mon esprit, prends garde. Pas de parti de salut violent. Exerce-toi. Ah, la science ne va pas assez vite pour nous. Mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé toujours à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurants. S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale. S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse. Oh, pureté. Pureté. C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Déchirante infortune.
Les cordes de Yann Kaczmarek, une musique composée pour Rimbaud à la suite de ce texte d'Une saison en enfer, L'impossible, lu par Jacques Gamblin. Yann Frémy, vous êtes en studio avec moi aujourd'hui pour parler de ces textes. Ce texte est d'une densité incroyable. Là, on l'a entendu, 4 minutes de texte. Il faudrait des heures et des jours pour tout déplier. Commençons par un point de départ qui arrive au début du texte. Il dit « Je m'évade, puis je m'explique ». Il s'explique. Quelle étrange posture pour un poète que de s'expliquer en prose, qui plus est.
D'autant plus qu'on a souvent fait de Rimbaud un poète du corps, hein, de la sensation, et que là on aperçoit son intelligence et même sa méthode. Alors effectivement, une saison d'enfer consiste à se libérer d'un certain nombre de représentations dont nous avons parlé. Il va mettre au point des méthodes. La méthode précédente, celle qui venait avant l'impossible, c'était la recherche de l'intensité à tout prix. Voilà, lutter contre l'extensif, chercher l'intensif, ça a été une solution, il y a eu des prodiges, mais finalement, comme il le dit lui-même, à un moment, on ne perd pas. Voilà, on ne part pas.
Lui qui veut sans cesse s'évader, justement.
Voilà. Même à la fin de la cinquième section, où il y a ce tam-tam extraordinaire, faim, soif, cri, danse, 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 on pourrait dire, ça y est, il est arrivé au paroxysme de la sensation, donc au paroxysme de la liberté. Mais juste après, les blancs débarquent. Voilà. C'est-à-dire que les flux, immédiatement, sont bloqués, les lignes de fuite sont codées, on est rapatrié dans l'Occident. De force. Alors, à partir de l'impossible, il se dit que si l'intensité n'a pas fonctionné, on va prendre une autre méthode. Et cette méthode, ça pourrait être une méthode qu'on pourrait appeler finalement une déconstruction.
Donc l'impossible, c'est ce poème que l'on vient d'entendre.
Voilà, l'impossible, c'est ce poème, une déconstruction. Et pour ça, il y a ces deux phrases, je m'évade, je m'explique. Mais on a envie de dire, dès le départ, le programme de l'échec est en place, hein, ou de la pourrie, parce que quand on s'évade, on ne s'explique pas. Si on s'évade vraiment. Si on commence à s'expliquer, c'est qu'on ne s'évade plus. En bref, c'est la différence entre tricher et trahir. Là, voilà, il faut trahir pour quitter l'Europe et on ne donne plus de nouvelles. C'est ce qu'il fera un moment. Mais à partir du moment où il va s'expliquer, il va se retrouver dans la logorée occidentale et il va devoir effectivement interroger la question de l'esprit.
C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, le terme esprit revient à de nombreuses reprises dans ce texte.
Oui, c'est un combat spirituel, hein. Il le dit à la fin d'une saison en enfer, le combat spirituel est aussi dur que la bataille d'hommes. Voilà. Donc, il s'agit bien de, si vous voulez, en termes philosophiques, c'est odos plus que méthodos. Il s'agit d'aller sur le chemin, cheminer contre des obstacles, mais ces obstacles ne seront pas des ennemis de chair et d'os, mais des représentations, des souvenirs d'enfance, ou bien les marais occidentaux.
Voilà. Oui, donc il y a cette opposition entre l'Occident, qui est le lieu de l'esprit, dit-il, et l'Orient, qui est le lieu du rêve, et il dit à la fin du poème, mais peut-être que cet Orient n'est pas l'Éden dont vous voulez parler. Enfin, il fait parler les gens d'église qui diraient, mais vous voulez parler de l'Éden, rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux. Et lui répond, mais c'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais, comme s'il idéalisait l'Orient comme un lieu meilleur, alors qu'en fait, c'est plutôt au paradis qu'il rêve.
Oui, l'Orient est une création de l'Occident, hein, finalement. Mais même dans sa réponse, c'était à l'Éden que je songeais, on revient toujours, voilà, au festin biblique, on revient toujours à l'imagerie biblique. On dirait qu'il n'arrive pas du tout à s'en séparer. Et alors, il va jouer beaucoup sur des choses très fines, sur le déterminant, l'esprit, un esprit, mon esprit. Il va vraiment travailler à un niveau, on pourrait dire, micro-analytique pour essayer de sortir l'esprit de la confiscation métaphysique ou les raisonnements métaphysiques, voilà. Et pour pouvoir faire une véritable indépendance de l'esprit. L'esprit, ça n'est pas l'âme, hein, ça n'est pas le corps, de faire en sorte que son esprit soit libre, qu'il soit lavé.
Alors qu'est-ce que c'est l'esprit ? C'est pas la raison. Il distingue les deux déjà. Comment vous définissez l'esprit pour Rimbaud ?
L'esprit, justement, c'est ce qui est en devenir, hein, c'est-à-dire ce qui a été confisqué, ce qu'il essaie de faire exister pour lui. Hein, voilà. Mais à la fin de l'impossible, il y a tout de même une phrase qui est très étonnante, c'est « Par l'esprit, on va à Dieu, déchirant ta fortune ». Alors là, on a un commentaire déchirant ta fortune. Comment se fait-il que, en allant à Dieu, ça soit une infortune ? Eh bien voilà, encore une fois, ça a été confisqué, ça a été happé par la métaphysique religieuse, par l'esprit. On pourrait faire des tas de choses. On pourrait faire de la poésie, on pourrait révolutionner la société, on pourrait être libre, on pourrait être joyeux. Mais non, par l'esprit on va à Dieu, ça veut dire par l'esprit on ne va qu'à Dieu. Il y a un seul chemin. Et finalement, ça se replie, encore une fois. Et c'est pour ça que c'est une infortune. Il a essayé de faire exister l'esprit presque de manière matérialiste, voilà, pour le mettre au service de la poésie, de son existence, d'un style d'existence, de son mode de vie, d'une liberté individuelle. Et finalement, l'esprit, à la fin, est à nouveau, n'emprunte qu'un seul chemin, non pas celui que Rimbaud voulait le voir prendre, mais celui de Dieu. Encore une fois, et c'est pour ça que c'est une infortune. Voilà. Mais une seule direction verticale, en quelque sorte, pour l'esprit.
Y compris pour les philosophes, qui sont cités directement dans ce texte. Les philosophes, le monde n'a pas d'âge, l'humanité se déplace simplement, vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient et d'y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu, philosophe, vous êtes de votre Occident.
Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, ce qu'il reproche aux philosophes, hein, qui ne sont pas identifiés à proprement parler, hein, c'est la pensée du relativisme. La pensée du relativisme qui dit qu'effectivement tout se vaut et que tout n'est qu'une disposition de l'esprit. Mais ce que cherche Rimbaud, véritablement, c'est une terre, hein, où habiter, hein, le lieu et la formule. Or là, on a un système où on pourrait, qui serait un système finalement d'indifférenciation. C'est ce qu'il appelle les marais occidentaux. Chez Rimbaud, comme chez Sartre, il y a une peur viscérale de l'indifférenciation, d'un retour à la pulsion de mort en tant que réduction des tensions, retour à l'état organique. Et dans Nuit de l'Enfer, on a par exemple des choses comme je me dissous, je m'en vais au vert, horreur de l'horreur. Là, ici, on a les légumes aqueux, la fièvre, le tabac, l'ignorance, les dévouements, les marais occidentaux. C'est-à-dire que c'est un univers fait de flaccidité, de manque à être, d'enlisement, tel que le sujet ne peut pas avoir de rutilance. Ça nous rapproche du Roquentin de la nausée. Hein. Il est dans cette nausée, il se dissout, le galet qu'il
de
prend...
Sartre, ouais.
Oui, voilà, de Sartre. Le galet, lui aussi, d'une certaine manière, a une face boueuse et il n'arrive pas du tout à avoir pour lui une sorte de fermeté ontologique qui fait qu'il pourra construire son existence dans l'engagement. Chez Rimbaud, la même chose, cette peur d'être enseveli. Voilà, on sait que Sartre avait des phobies hein, terribles. Hein. Il rêvait, par exemple, il cauchemardait qu'à Venise, il était poursuivi par une langouste. Voilà, il avait peur des animaux marins. Voilà. Et Rimbaud a cette même peur, véritablement, de la dissolution, où finalement, ça serait le triomphe du néant. Et lui veut être. Alors on sait comment ça va se finir par Roquentin. Il va entendre cette musique, Some of This Day, et d'un seul coup, ça va être une bande d'acier qui va sortir, et son existence va se solidifier. Rimbaud, lui, cherche aussi à exister, donc à se solidifier, à quitter les marais occidentaux.
Et quel sera l'équivalent de la musique pour Roquentin dans le cas de Rimbaud ?
Ben, pour Rimbaud, la vérité dans une âme et un corps, hein, c'est les derniers mots d'une saison en enfer.
La vérité dans une âme et un corps ?
Oui. Alors c'est une formule étrange parce qu'on peut dire elle est profondément inspirée du dualisme occidental, l'âme, le corps. Mais il y a une notion qui intervient en plus, un concept hein, qui l'injecte en quelque sorte, qui est la vérité. Et c'est pas l'âme ou le corps. C'est pas la chair désir contre l'esprit. C'est la vérité dans une âme et un corps. Tout est dans la conjonction de coordination. En bref, il faut apprendre à vivre sa vie et non pas à la sauver, quoi.
Lorsque Rimbaud tente de devenir son propre auteur et qu'il définit sa tentative par « je est un autre », il n'hésite pas à opérer une transformation radicale de sa pensée. Il entreprend le dérèglement systématique de tous ses sens, il brise cette prétendue nature qu'il tient de sa naissance bourgeoise et qui n'est qu'une coutume, il ne joue pas la comédie, il s'efforce de produire pour de bon des pensées et des sentiments extraordinaires. Baudelaire, lui, s'arrête en chemin. Il prend peur devant cette solitude totale où vivre et inventer ne font qu'un, où la lucidité réflexive se dilue dans la spontanéité réfléchie. Rimbaud ne perd pas son temps à prendre la nature en horreur. Il la casse, comme une tirelire. Baudelaire ne casse rien du tout. Son travail de créateur est seulement de travestir et d'ordonner. Baudelaire est pur créateur de forme. Rimbaud crée forme et matière. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons d'Arthur Rimbaud, cette semaine aujourd'hui d'une saison en enfer. Je viens de lire un extrait du texte que le philosophe Jean-Paul Sartre a écrit sur Baudelaire. Vous citiez Sartre, il y a un instant Yann Frémy, le Sartre de la nausée, avec le personnage de Roquentin que vous compariez à Arthur Rimbaud. Dans ce texte, c'est Sartre lui-même qui compare Baudelaire à Rimbaud pour finalement faire gagner Rimbaud, si j'ose dire. Il dit que Baudelaire s'arrête en chemin quand Rimbaud va jusqu'au bout, comme si Rimbaud était l'aboutissement du geste poétique même.
Oui, c'est-à-dire avec Rimbaud, ça serait la fin des problèmes. Rimbaud, certes, n'a pas beaucoup écrit sur Rimbaud. Il a écrit des
choses.
Sartre n'a pas beaucoup écrit sur Rimbaud. Il a écrit quelques passages très profonds, mais surtout dans son Baudelaire, on voit que Rimbaud a une fonction rhétorique. Hein, c'est l'anti-Baudelaire. L'anti-Baudelaire. Donc, c'est une fonction, c'est une position anti-baudelairienne. Mais c'est plus complexe que ça, quoi, parce que le Rimbaud de Sartre est volontiers idéalisé. Bien sûr, Rimbaud casse d'une certaine manière, mais on voit que dans une saison en enfer, il est pris dans une sorte de rythme itératif, répétitif, frénétique, dont il n'arrive pas à s'en sortir. Lui aussi, d'une certaine manière, est dans la comédie. Il va emprunter des masques continuellement tout au long d'une saison en enfer. Et finalement, ce que voit bien Sartre et qu'il ne veut pas reconnaître, c'est que lui-même est très proche de Baudelaire. Et aussi que finalement ses phobies sont aussi celles de Rimbaud. J'avais parlé de ce vertige de l'indifférenciation qui prend continuellement Rimbaud. On le retrouve continuellement dans une saison en enfer, dans les extraits que j'ai cités, mais aussi dans les assis, hein. Ces gens à l'église qui finalement font tresse avec leurs chaises, hein, et deviennent des sortes d'hommes-objets. Et on sait que ces interpénétrations des éléments, pour Sartre, est véritablement la cause d'un malaise. Hein. C'est pour ça qu'il a une sorte de passion négative pour Venise, hein, aussi, hein, où l'eau est toujours son propre reflet, où les bâtiments se reflètent, où l'on perd les contours de fermeté. Mais finalement, Rimbaud est plus proche de Rimbaud qu'il ne pense, plus proche
Sartre,
de Baudelaire.
Décidément, vous appelez Sartre Rimbaud.
Et plus proche de Rimbaud, Sartre. Mmh. Ah ouais, voilà. Donc ben voilà, oui. Il y a une sorte de Rimbaud-Sartre en même temps. Hein, je pense que franchement, ils sont très proches l'un de l'autre dans leur phobie, dans leur crainte, dans leur cauchemar.
Mais vous parliez de vertige de l'indifférence qu'ils auraient en commun. Est-ce que pour Rimbaud, le monde est aussi absurde qu'il l'est pour Sartre?
Ben, c'est plutôt un vertige de l'indifférenciation, c'est-à-dire la crainte de l'entropie, la crainte de l'annulation des différences, un monde composé de légumes aqueux, d'ivronnerie, de tabac, un monde
où tout se vaut, on en revient.
Où tout se vaut, un monde de la déréalité, voilà. Alors qu'à la fin d'une saison d'enfer, Rimbaud va se reconnaître paysan, voilà, avec la réalité rugueuse à étreindre. Il cherche une chose que la métaphysique occidentale, y compris poétique, ne parvient pas à saisir, c'est-à-dire simplement la réalité.
Qui sera dans la nature ?
La réalité, non, paysan, c'est plutôt reconnaître la condition finie de l'homme, hein, sa finitude, son tragique, le fait d'être destiné à la terre.
C'est ça, donc il y a quand même ce rapport terrestre, donc pas la nature, mais la dimension terrestre de l'existence.
Voilà, une seule dimension horizontale cette fois, mais apprendre à vivre sa vie, non pas la sauver, quoi. Voilà.
Dans le poème Impossible qu'on a entendu juste avant qu'on en entende un troisième, il y a quand même cette référence aux femmes. Et j'insiste là-dessus parce qu'on retrouve beaucoup dans la poésie de Rimbaud des formes de réflexion ou de vers où il est question de femmes et qui laissent penser que Rimbaud aurait une forme de féminisme. En tout cas, dans ce texte, il dit « J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. » Alors, je ne sais pas à quel contexte il fait référence à ce moment-là, mais on retrouve à de nombreuses reprises cette espèce d'éloge du féminin qui n'est pas du tout d'une idée abstraite, mais plutôt genre l'homme, disant que l'homme se comporte plutôt mal par rapport à la femme.
Oui, et ça revient continuellement hein, dans ses œuvres. Dès les Lettres du Voyant, en 1871, en mai 1871, il encourage les femmes à devenir poètes en se demandant si leur monde d'idées vont différer de ceux des hommes. Voilà. Donc il est prêt à écouter ceci d'événements. Vénus et Nadiomène, qu'on a lu à tort comme un poème qui salit Vénus, en fait, c'est la dénonciation du sort des prostituées sous le Second Empire. On retrouve continuellement ça, y compris dans Alchimie du Fer. Il y a ce passage, par exemple, je le lis. Tu vois cet élégant jeune homme entrant dans la belle et calme maison. Il s'appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je. Une femme s'est dévouée à aimer ce méchant idiot. Elle est morte, c'est certes une sainte au ciel à présent. Voilà. Et il parle effectivement des hommes qui se comportent comme des bûchers ou bien c'est peut-être ou des bouchers avec les femmes hein. Donc c'est très très fort hein, véritablement il y a une prise de position qu'on peut dire féministe mais en tout cas il s'agit de libérer l'ensemble de l'humanité quoi.
Sans oublier les femmes.
Alors sans oublier les femmes. C'est-à-dire, par exemple, dans les premières communions, il montre bien comment une jeune adolescente est recrutée en quelque sorte par l'Église au moment où elle se pose des questions. Voilà. Donc, il y a une volonté effectivement d'une libération générale de l'humanité, mais qui implique la moitié de l'humanité aussi, bien sûr. Voilà.
C'est suffisamment rare pour qu'on y insiste. Un dernier texte que nous allons écouter ensemble, Yann Frémy, cette fois-ci, qui vient des Illuminations, donc l'autre recueil de poésie de Rimbaud, qui du coup a été publié, mais pas de son vivant. Vous disiez, Saison en enfer est le seul qui a été publié de son vivant.
Oui. Une saison, Les Illuminations, un ensemble de poèmes en prose qui a été laissé à Verlaine et à Germain Nouveau pour publication, mais Rimbaud s'en est après à peu près totalement désintéressé.
Et alors pourquoi ce texte en particulier ? Il s'agit du génie. Et le génie, nous dit-il, est finalement beaucoup plus partagé que ce que l'on croit. Nous étions partis de l'enfer, nous allons vers jusqu'aux illuminations. Est-ce que le génie est ce qui peut nous sauver justement de l'enfer ?
D'une saison d'enfer aux illuminations, c'est un peu de l'enfer au paradis. Hein. Voilà, hein. Sachant que ce paradis est trompeur. Hein. Voilà. Donc génie, c'est voilà. On est habitué à le mettre à la fin des illuminations. On ne connaît pas sa place exacte. Mais toujours est-il que c'est une refondation pour Rimbaud. C'est-à-dire, dans une saison d'enfer, il se montrait victime du système dualiste occidental. Il parle souvent de deux amours, un amour terrestre, un amour divin. Et il se rend compte, le corps, l'âme, tout un régime de séparation, une dissociation permanente. Et ici, dans Génie, il va essayer de faire en sorte de marier ensemble l'intelligible et le sensible, le corps et l'âme. Ce que dit Jean-Pierre Richard, le prestige unique de la poésie rimbaldienne est d'avoir fait tenir ensemble une science et une vigueur.
Qui est Jean-Pierre Richard?
C'est Jean-Pierre Richard est un des grands critiques littéraires qui a fait Poésie et profondeur de Rimbaud, un texte de 1955, mais qui est toujours dépassé à bien des égards.
Voici le texte Génie dans Les Illuminations d'Arthur Rimbaud, lu par Jacques Gamblin.
Il est l'affection et le présent, puisqu'il a fait la maison ouverte à l'hiver écumeux et à la rumeur de l'été. Lui qui a purifié les boissons et les aliments, lui qui est le charme des lieux fuyants et le délice surhumain des stations, il est l'affection et l'avenir, la force et l'amour que nous, debout dans les rages et les ennuis, nous voyons passer dans le ciel de tempête et les drapeaux d'extase. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité. Machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne sa promesse, sonne arrière ses superstitions, ses anciens corps, ses ménages et ses âges, c'est cette époque-ci qui a sombré. Il ne s'en ira pas, il ne redescendra pas d'un ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Oh, ses souffles, ses têtes, ses courses! La terrible célérité de la perfection des formes et de l'action, ô fécondité de l'esprit et immensité de l'univers. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de violences nouvelles. Sa vue, tous les agenouillages anciens et les peines relevées à sa suite. Son jour, l'abolition de toute souffrance sonore et mouvante dans la musique plus intense. Son pas, l'émigration plus énorme que les anciennes invasions. Ô lui et nous, l'orgueil plus bienveillant que les charités perdues. Ô monde et le chant clair des malheurs nouveaux. Il nous a connus tous et nous a tous aimés. Sachons, cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regards en regards, forces et sentiments là, le héler et le voir, et le renvoyer, et sous les marées, et haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour.
L'abolition de toute souffrance sonore et mouvante dans la musique plus intense. Rimbaud a aussi inspiré John Zorn, dont on est en train d'écouter un extrait qui s'appelle justement Illumination. Ce texte donc sur le génie, ici mis en voix par le comédien Jacques Gamblin, rendant justice à ses lectures, Yann Frémy.
Oui, j'en profite pour dire à Jacques Gamblin de ne pas tarder à enregistrer et à lire toute une saison d'enfer.
Ce qui est extrêmement difficile à lire.
Extrêmement difficile à lire, mais il a trouvé vraiment la voix, le ton et le rythme. Alors j'espère qu'il va continuer.
Nous aussi, on espère. En tout cas, grâce à lui, nous avons pu entendre ce texte avec cette gradation, son corps, son jour, son pas, lui et nous au monde. Finalement, le génie serait ce qui peut permettre de faire monde. On peut le comprendre comme ça ?
Oui, on peut le comprendre comme ça, tout à fait. Il faut voir d'où part ce projet. D'où part ce projet ? Il est clair que on voit que le génie, c'est la culture du paradoxe. Il arrive toujours à être, par exemple, l'immobilité, le mouvement. Par exemple, au 19e siècle, il n'y a pas de matérialisme pur. Le matérialisme de Rimbaud est pétri d'idéalisme ou inversement. Et on avait parlé de ces deux amours, hein, l'amour divin et l'amour terrestre. Et Rimbaud se rend compte à quel point le projet poétique, son projet poétique, est concurrentiel par rapport au projet religieux, par rapport au projet chrétien. Il le dit sur le mode de la crise dans Une saison en enfer à un moment. Il dit « Je veux la liberté dans le salut ». C'est-à-dire deux choses qui semblent véritablement inconciliables, une liberté et on pourrait dire un déterminisme ou une détermination ultime. Et dans Une saison en enfer, tout cela va souvent échouer. Par exemple, au début de Nuit de l'enfer, un des chapitres d'Une saison en enfer, on voit une crise d'hystérie. Une crise d'hystérie, parce que dans le corps du sujet s'est infiltré le poison d'une certaine manière de la religion, et il y a un véritable choc des incompatibilités, il ne supporte pas ça, et on a une crise d'hystérie. Et Rimbaud, dans les illuminations, va essayer d'inverser la donne, et ce qu'il a fait dans le cadre d'une poétique un peu énergumène, en quelque sorte, ou d'une philosophie énergumène, il va essayer de le faire de la manière la faire balancer du côté d'une philosophie de l'affirmation. Et pour cela, il avait déjà donné une réponse qui était la vérité dans une âme et un corps. Mais finalement, dans une âme et un corps, c'était à hauteur de sujet, à hauteur d'homme. C'était une sorte de sagesse tragique, ce qui était très bien. Mais ce qu'il manquait pour un Rimbaud qui reste romantique, c'est une sorte de figure de l'être, une figure en surplomb. Comme ça, qui pourrait incarner, qui pourrait prendre la place de Dieu. Voilà, qui pourrait prendre la place de Dieu. Et ça sera le génie. Ça sera le génie. Et donc, il va créer une machine, par exemple, qui est paradoxale. La raison, par exemple, elle est imprévue. Il est le charme des lieux fuyants et le délice des stations.
Cette machine, c'est quoi ?
Ah ben justement, cette machine, c'est
pourquoi
une création.
Machine,
c'est une création, oui. C'est une création poétique qui est le génie. Ou est-ce que c'est une figure de l'incréé ? Hein, ça, c'est une question. Mais toujours est-il que il n'y a plus de christianisme pratiquement dans les illuminations. Il parle bien des péchés relevés à sa suite. Donc on a une figure qui prend la place de Dieu, qui prend la place de Christ, qui est laïcisée, qui est matérialisée et qui représente désormais l'idéal poétique. Voilà, parce que elle arrive à conjoindre ceux qui étaient séparés par le système dualiste occidental.
Mais qu'est-ce que ça change finalement s'il s'agit de la même réalité à laquelle on donne un autre nom ? Si le génie vient se substituer au dieu, mais qu'il reste quand même, qu'il joue le même rôle, alors finalement, quelle différence ?
Mais il est différent. Il est différent. Dans cet alinéa, il dit « il ne s'en ira pas », déjà. Alors que, bon, le Christ est parti. « Il ne redescendra pas d'un ciel », pas de retour. « Il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait lui étant et étant aimé. » Il est.
Ce sont des termes chrétiens d'ailleurs, hein, qui relient l'être à l'amour, là pour
oui.
le coup.
Voilà, il a toujours cet arrière-fond chrétien. Deleuze avait une thèse hein, où il expliquait ce qu'était l'univocité de l'être. Alors l'univocité de l'être, ça veut dire qu'il faut un être pour tous les étants, un être pour chaque mouvement d'existence dans ce monde.
Ce qui est le problème philosophique qui traverse l'histoire de la philosophie depuis Parménide.
Ouais. Tout à fait. Donc Rimbaud, là, veut faire une figure de l'être, donc il va provisoirement identifier la poésie à l'ontologie. Mais ce qu'on peut voir dans ce texte qui est formidable, on dirait presque des monades, son corps, sa vue, son jour, son pas, voilà. Hein, c'est presque leibnizien comme texte, une monadologie. On s'aperçoit quand même qu'il y a un implicite déceptif. Un implicite déceptif, pourquoi ? Est-ce que ce génie est véritablement l'œuvre suprême de Rimbaud, sa création ultime ? Ça se pourrait, mais on se rend compte déjà que c'est une machine. Il le dit, machine aimée ou machine animée en quelque sorte, des qualités fatales. Mais c'est une machine, c'est une création, donc une vue de l'esprit. Et après, il parle des hommes qui restent debout dans les rages et les ennuis. Donc, finalement, si on voit bien que Rimbaud a réussi à ce poème du paradoxe, les hommes restent debout dans les rages et les ennuis. Ce qui veut dire qu'il y a à nouveau deux niveaux. Le génie qui est dans les drapeaux d'extase et les hommes qui ne peuvent simplement que voir passer le génie debout dans les rages et les ennuis. Donc on revient à la misère de l'homme, à une sorte de grandeur du génie. Tout se remet en place malgré la tentative conceptuelle de créer une nouvelle figure de l'être.
Donc tout ça pour ça ?
Tout ça pour ça, oui, mais peut-être un échec splendide, hein, d'une certaine manière. Est-ce que les illuminations réussissent? On dirait a priori oui. Est-ce qu'une saison en enfer échoue? On dirait a priori oui. Mais c'est peut-être l'inverse aussi, hein, d'une certaine manière. Ici, la création rimbaudienne, disons que Rimbaud est un voyant, mais il est aussi un clairvoyant. Il est très lucide. Hein, il ne va pas s'illusionner longtemps. Mais il a réussi quand même à approcher une figure totale, une figure de l'idéal.
Une saison en enfer, A Season in Hell, c'est John Zorn, toujours avec, qui nous accompagne pour cette fin d'émission. Un grand merci à vous, Yann Frim, d'être venu nous parler de Rimbaud aujourd'hui.
Merci.
Et de célébrer cet échec sublime qu'est la poésie de Rimbaud. Peut-on encore parler d'échec quand on en parle encore tant et si bien? Et grâce à vous, notamment, vous lui avez consacré de nombreux ouvrages. J'en cite un, Te voilà, c'est la force. C'est une citation de Rimbaud et c'est sur Une saison en enfer de Rimbaud qu'on trouve aux éditions Classic Garnier. Et puis vous êtes aussi à l'origine, avec d'autres personnes, d'un dictionnaire Rimbaud qui verra le jour d'ici un an, c'est
oui,
ça ?
D'ici la fin 2018, début 2019.
Voilà, et dont l'un des contributeurs, Alain Sagère, sera mon invité demain. Et oui, en enfer, tout se mélange, mais tout retombe sur ses pieds. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous revenez sur une anthologie qui a retenu votre attention.
Oui, c'est une anthologie de textes antiques publiés dans l'excellente collection des belles lettres signées. Le thème est celui très beau des métamorphoses. Alors on y trouve bien sûr des extraits des métamorphoses d'Ovide, mais aussi celles dans l'Énéide de Virgile, dans l'Odyssée d'Homère ou encore des fables d'Hygin. De quoi saisir l'enjeu philosophique de cette question des métamorphoses, l'identité. En quoi l'identité est-elle en jeu dans une métamorphose? Qu'est-ce qui de soi en soi se transforme? Jusqu'où la forme et ses changements accordent-ils notre âme?
Belle. Si j'étais un homme, sans doute, je ferais les choses que vous me dites. Mais les pauvres bêtes qui veulent prouver leur amour ne savent que se coucher par terre.
Pour résumer, les métamorphoses relèvent de trois grands types. Alors il y a celle qui explique l'avènement du monde et de ce qui le compose, les astres, la grande ourse, les fleurs, jonquilles, cyprès et narcisses, et les insectes, arachnées devenues araignées. Et puis il y a celle qui relève du jeu et de la ruse, ce sont les déguisements d'Ulysse ou de Zeus. Et puis enfin, il y a toutes les métamorphoses qui engagent un changement profond. Changement d'espèce, homme, animal, végétal, un changement d'apparence, Gigès et son anneau qui le rend invisible, ou de genre, Tirésias et Hermaphrodite pour les plus connus. Mais à travers ces trois grands types de métamorphoses, subies ou voulues, naturelles ou pas, gratuites ou intéressées, morales ou pas, se joue cette même question. La métamorphose fait-elle changer en un autre où fait-elle devenir celui que nous avions à être ? Avec La Belle et la Bête, dont on a entendu un extrait, la bête est devenue-t-elle par punition ? Mais ce qui change, au final, c'est moins son corps que son âme. Redevenu homme, est-il devenu lui-même ? Où s'est-il transformé ?
Ainsi finit la légende du chien des Baskerville. Aussi, prenez garde. Ne vous aventurez pas sur la lande la nuit, quand le diable se déchaîne. Sinon, vous rencontrerez sûrement le chien de l'enfer, le chien des Baskerville.
Où aller ? Pour l'amour du ciel, où aller ?
La question se pose aussi avec toutes les métamorphoses qui frappent par leur caractère irréel, monstrueux. Loup-garou, chimère, homme-chêne ou hippocampe, ces formes magiques n'en sont pas moins crues, mais elles semblent moins révélatrices d'elles-mêmes que de nous-mêmes. Elles sont moins des formes extérieures à nous que propres à nous. Ici, en effet, la métamorphose ne concerne pas quelque chose de visible et d'extérieur, mais bien une partie de notre être, inconscient, imaginaire, esprit. C'est ce qui distribue nos repères, prend en charge, comme le chien des Baskerville, toutes nos frayeurs, tous nos rêves ou nos fantasmes. Elle nous informe. Face à une métamorphose monstrueuse ou prodigieuse, se révèle ainsi en miroir quelque chose de nous, la nôtre, notre propre métamorphose, celle qui nous fait peur mais qui est déjà et toujours à l'œuvre. Ces fluctuations de forme sont d'abord humaines et cette anthologie ne manque pas de citer la métempsychose, cette migration des âmes après la mort que l'on trouve chez Platon, ou ce devenir permanent du monde dont parle Lucrèce, tout passe, tout change.
À une époque où l'homme est devenu dépendant des robots, pour satisfaire le moindre de ses besoins.
L'homme nous a fait meilleurs dans notre spécialité, plus qu'il n'a jamais été humainement possible.
La science va créer un nouvel ordre d'être artificiel.
Tu es une machine.
Je suis un garçon.
Impossible.
Devenir soi-même ou un autre, ou d'autres versions de soi-même, ou soi-même comme un autre, pour reprendre Ricoeur. Mais quelle version alors ? Quel autre de soi, meilleur ou pire, l'assumer ou le subir ? On aurait tort en fait de penser que les métamorphoses ne concernent que les autres, que l'Antiquité, que l'apparence ou seulement une partie de nous. Dans une continuité des formes, du corps et de l'esprit, des questions et des récits, les métamorphoses travaillent aussi notre futur, d'où ce problème abordé dans cette anthologie du transhumanisme. Qui voulons-nous être et comment ? Les métamorphoses des anciens recèlent d'exemples qui nous permettent de penser le plus ordinaire ou le plus extraordinaire des changements, temporaires ou irréversibles, mais toujours avec cette question : qu'engagera-t-il de nous ? S'agira-t-il de s'adapter au monde ou de l'adapter à nos désirs, de se pétrifier ou de s'animer ?
Merci Géraldine. Alors le livre sur les métamorphoses s'appelle
Métamorphose. Métamorphose, tout simplement, c'est aux belles lettres. Et je signale que c'est précédé d'un entretien avec Christophe Honoré qui a adapté les métamorphoses d'Ovide et que ce sont des textes réunis et présentés par Blanche Cerchiglini.
Merci beaucoup Géraldine. Moi aussi j'ai une actualité à annoncer. Le dernier numéro de la revue de France Culture Papier. France Culture Papier, le thème c'est animaux si proches, trop proches. Votre chronique en tout cas, on peut la réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Myriam Guillot qui était à la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin qui prête sa voix à Rimbaud pour nous cette semaine. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Arthur Rimbaud. « Je est un autre », c'est une citation de Rimbaud, elle sera commentée par le philosophe Alain Sagère à ce même micro demain. Pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture. Pour la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, à demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.